Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de rester fidèle au programme de Studio Tamani. Au menu de ce journal, une série d'attaques a visé hier soir le poste de douane de Djeni et celui de la gendarmerie de Sébékoro. Les habitants interpellent les autorités à faire face à l'insécurité. À Yélimani, des habitants pratiquent la pêche au niveau des mares. Malgré l'absence de fleuves, ils tirent leur épingle du jeu grâce à cette activité. Dans la chronique du jour, on parlera de la polygamie et la préférence pour les femmes d'être première ou seconde épouse. Adama Amadou Aïdara nous dira les raisons de ces choix. À la présentation, Moumine Sendebou, la mise en onde est assurée par Gagny Kanti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme tantôt annoncé, des hommes armés non identifiés ont attaqué le poste de douane de Djeni dans le cercle de Kolokani la nuit dernière. Une autre attaque a visé le poste de gendarmerie de Sébékoro dans la région de Kita. Ces attaques auraient fait un mort, des blessés et des dégâts matériels selon des sources locales. Imirana Kilumaiga nous donne plus de détails.
Au lendemain de cette attaque qui a visé le poste de contrôle de la douane, la vie a repris son cours normal à Djeni. Les populations vaquent à leurs occupations. Le trafic routier sur la route nationale 3 qui traverse la ville continue normalement. La localité située à 160 km de Bamako, Djeni subit ainsi sa deuxième attaque terroriste, la première ayant visé le même poste de douane en fin 2020. Après l'attaque de dimanche soir, le dispositif sécuritaire a été renforcé de la ville, rapporte des sources locales. Des hélicoptères ont survolé la localité. Toujours selon ces mêmes sources, un soldat aurait été blessé, quatre véhicules incendiés ainsi que le poste de douane au cours de cette attaque. Toujours dans la nuit de dimanche à lundi, le poste de gendarmerie de Sébékoro de la région de Kita a été la cible d'une attaque. Un gendarme aurait été tué et un autre blessé, selon des sources locales. Jusqu'à la mi-journée, l'armée n'avait fait aucune communication sur ces différentes attaques.
Les responsables communaux de Djeni invitent les autorités à rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire. Selon eux, même si le calme est revenu dans la localité, la menace terroriste persiste. C'est du moins ce qu'estime cette élue locale, joint au téléphone par Imirana Kilumaiga.
Le calme est revenu. Nous avons l'esprit tranquille en ce moment. C'est la douane qui a été attaquée. Ils ne sont pas arrivés dans la ville. Pendant l'attaque, ils ont brûlé deux voitures, celle d'une ONG et d'un particulier, avant d'incendier le toit d'une maison. Je pense qu'organiser une élection dans ces conditions reste une erreur. On ne peut pas soigner une plaie sans connaître les causes réelles de la maladie. Il faut d'abord chercher à mettre fin à cette guerre. La guerre a toujours existé, mais il faut juste trouver le bon remède.
Clin d'œil à ceux qui nous suivent en live sur Facebook. Vous pouvez comme eux donner vos impressions sur toutes nos informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Parlant toujours d'insécurité, les enlèvements et assassinats se multiplient dans la région de Gao. Dimanche dernier, un jeune opérateur économique a été enlevé par des hommes armés dans la ville. Puis avant, un autre opérateur économique a échappé à une tentative d'assassinat. Cette situation inquiète les populations. Malgré les sorties massives de la population pour dénoncer cet état de fait, le phénomène demeure. C'est ce qu'indique un habitant. Sous couvert d'anonymat, il est joint au téléphone par Hawa Berthi.
Toujours les mêmes scénarios. C'est devenu en tout cas la routine des populations du Nord en général, et en particulier la région de Gao. Sincèrement, nous, là où nous sommes aujourd'hui, on ne va pas quand même baisser les bras. Mais la situation est plus qu'inquiétante. C'est devenu du business pour beaucoup de gens. On n'a pas pu encore mettre la main réellement sur ces personnes qui font ces bêtises. C'est un réseau de proximité, un réseau asymétrique. Les acteurs qui font ces actes sont parmi nous-mêmes. Et les patrouilles des femmes, les multiples actions menées par les organisations, soit gouvernementales ou non gouvernementales, dans le cadre de la paix, la cohésion sociale, les vivre ensemble, la multiplication des groupes armés qui sont là aujourd'hui. Avec tout ça, là, les mêmes actions continuent. C'est plus que nécessaire aujourd'hui pour l'État d'accélérer ce système de DDR.
Direction Yélimani, dans la région de Kaï, la pêche est pratiquée par beaucoup d'habitants. Pourtant, la localité ne dispose pas de fleuve. C'est dans les mares que les pêcheurs mènent leurs activités. Mais depuis quelques années, les effets du changement climatique, notamment la sécheresse, menacent l'activité de la pêche à Yélimani. Notre envoyé spécial de retour, Draman Maïga, nous fait le point.
Nous sommes à l'entrée de Yélimani. Il est 12h passées, le soleil est au zénith. Avec un filet de pêche tenu par des bois et fils fins, Idrissa Traoré bouge lentement dans la mare.
Avant que l'eau ne baisse ainsi, il y avait beaucoup de poissons par là. Mais maintenant, il faut être très courageux pour pêcher dans cette mare. Il n'y a plus assez de poissons.
Quelques poissons attrapés sont visibles dans son bidon de 20 litres. Un peu devant, Golo Camara est assis sur le pont non loin de la chute d'eau. Lui, par contre, il tente sa chance avec une canne à pêche.
Il y a des marigots derrière, dans lesquels les riverains pêchent une ou deux fois par an. Quand il pleut, les eaux amènent du poisson à travers ces marigots, en plus des poissons de cette mare. Ce qui fait que souvent, nous avons une variété de poissons ici à Yelimane.
Pour tenir le plus longtemps que possible l'eau dans cette mare et développer le secteur, ces pêcheurs demandent une implication des bonnes volontés et de l'État.
Cap sur l'actualité dans la région. En bref, un château d'eau équipé, 10 bornes fontaines, des plaques et kits solaires pour une valeur de 18 millions de francs CFA ont été inaugurés ce lundi à Kokoni, commune de Madina Sako, cercle de Banamba. Ces équipements sont offerts par un ancien député du cercle sur financement de l'ONG Direct Aid et l'Agence des musulmans d'Afrique. La campagne de la semaine d'intensification des activités de nutrition a pris fin ce lundi à Yoroso. Elle consistait à administrer de la vitamine A et de l'albendazole aux enfants de 6 à 59 mois et les femmes en post-portion immédiat. La stratégie utilisée par les agents de santé était le porte-à-porte. Selon les organisateurs, il s'agit de contribuer à la réduction de la mortalité et la morbidité liée à la carence en vitamine A et les parasites. Elle a été organisée par le district sanitaire de Yoroso en partenariat avec l'UNICEF. Depuis quelques jours, on crée un tollé chez des internautes concernant l'accès à la carte biométrique au Mali. Est-ce que le gouvernement a mis à la disposition des citoyens un site pour prendre des renseignements afin de recevoir la carte biométrique? La réponse avec Fatoumata Kodjo dans la rubrique Vérifions.
Non, les autorités maliennes n'ont pas mis à la disposition des citoyens un site dénommé www.jevalidemonina.com pour identifier ses informations Nina et recevoir sa carte biométrique. En effet, le lien de ce site a été largement partagé sur les réseaux sociaux, particulièrement sur WhatsApp. Le lien vous demande de remplir des champs vides sur vos données personnelles. Détrompez-vous, c'est une arnaque. En cliquant sur le lien, on vous signale que des individus mal intentionnés tentent peut-être d'utiliser vos informations personnelles. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a dans un communiqué ce 3 janvier démenti toute distribution de la carte biométrique via un site. Le département rassure la population que les informations sur la carte d'identité biométrique se feront à travers des canaux officiels. Il ajoute que les auteurs de tels actes seront punis.
On en vient à notre dossier du jour. Au Mali, comme dans plusieurs autres pays africains, des femmes doivent se résigner souvent à partager leur mari. Mais des fois, dans cette situation, la préférence des femmes à être la première ou la deuxième de leur époux se pose. Pourquoi cette préférence et dans quel intérêt? Notre chronique Zoom sur s'intéresse au sujet. Elle est présentée par Adama Amadou Haïdara.
Je préfère être la première femme de mon mari et profiter de tous les privilèges. C'est Bintou qui s'exprime ainsi. Elle est célibataire et âgée de 28 ans. Avec assurance, elle poursuit. En prenant bien soin de lui, peut-être qu'il ne prendra jamais une deuxième épouse. Bintou tient donc à garder son futur mari pour elle seule et marquer son territoire. Comme on le dit, premier venu, premier servi. Mais il faut le dire, être la deuxième épouse ne déplaît pas aussi à tout le monde. C'est le cas de Rokia, issue d'une famille polygame. Elle est la deuxième femme de son mari. Cette situation de deuxième me convient très bien, dit-elle avec ironie. Pourquoi pas, soutient-elle? Quand mon mari est chez l'autre, j'ai du temps pour faire ce que je veux et lorsqu'il est chez moi, je profite pleinement de lui. Mais ce n'est pas tout. Pour qui connaît les affres de la polygamie, le problème d'habitation se pose. Il y a des femmes pour éviter les disputes de tous les jours avec sa sœur de même mari, comme on aime affectueusement le dire, préfère habiter loin. Par contre, Sitan, curieuse de voir tout ce que son mari fait pour sa coépouse, préfère que cette dernière vienne habiter avec elle dans la même cour. Mais attention, une coépouse n'est pas une amie, encore moins une sœur. Une coépouse reste une coépouse, même si elle est gentille et très respectueuse.
C'était là la chronique Zoom sur signé Adama Amadou Haïdara et c'est ce qui boucle cette édition présentée par Moumine Sendebo avec la collaboration technique de Gagne Kanté. Pour ceux qui ont pris le train en marche, notez que vous pouvez réécouter toutes nos informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas dans un instant le magazine puis le grand dialogue. Merci et à bientôt. Depuis la rectification de la trajectoire de la transition le 24 mai 2021, les autorités de la transition ont décidé de changer le visage du pays en un Mali Koura, autrement dit le Mali nouveau, qui aspire à un changement de comportement et de gouvernance. À mi-parcours, les populations du nord au sud se félicitent des signaux annonçant une gouvernance vertueuse. Pourtant, des sociologues estiment que beaucoup reste à faire. Imilana Kulumaiga nous en dit plus.
Cette aspiration du Mali nouveau passe forcément par le changement de comportement et de gouvernance, expliquent des sociologues. Selon eux, à ce stade, les Maliens ne sont toujours pas encore prêts. C'est ce qu'estime Brahima Eliduko, sociologue.
C'est pratiquement le disque dur du Malien même qu'il faut changer. Parce que le Malien lui-même aspire au changement. Il tient de grands discours, mais lorsque le changement doit commencer par lui-même, il refuse. Bon, dans ce contexte, c'est difficile d'arriver au Mali Koura vanté et chanté par tout le monde.
Nous sommes pourtant sur la voie du changement, souligne des citoyens dans Songo, au nord du pays. Pour eux, aujourd'hui, l'État malien se fait respecter. En retour, les Maliens ont changé de regard vis-à-vis des autorités, disent-ils.
Aujourd'hui, le citoyen malien a peur de l'État, ça c'est un. À l'époque, tout le monde n'a pas peur de l'État. Mais aujourd'hui, pas seulement, la gouvernance actuelle a fait ce que les citoyens maliens aujourd'hui savent que nous avons vraiment un gouvernement qui est au sérieux.
Nous voyons quelques signes tels que à chaque jour on voit les militaires avec l'accompagnement de la Russie, ils amènent des bandits.
Au centre du pays, les populations se félicitent des avancées enregistrées depuis la rectification de la transition, notamment dans le domaine de la sécurité.
Le Mali Koura à Douanza, c'est vrai, il y a eu le retour de l'administration. Nous avons nos forces de défense vraiment qui sont en train de prendre le terrain, c'est-à-dire en marche. Et ensuite, les foires hebdomadaires qui n'étaient pas du tout fonctionnelles autrefois, aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va.
Ici à Bankaz, j'ai dit, le Mali Koura avance puisqu'il y a la sécurité qui s'installe. La base du développement même, c'est la sécurité.
À Bankaz, depuis quelques mois, nous assistons à une faible diminution des tensions vives qui existaient auparavant.
À Douanza, nous remercions Dieu. La marche du Mali Koura est constatée petit à petit à Douanza.
Même constat au sud du pays. Des habitants de Yoroso indiquent que sur le plan de la gouvernance, notamment l'éducation et la gestion des affaires publiques, des changements notoires ont été constatés.
Par rapport à l'organisation même des examens, donc tu peux dire alhamdoulaye, voire même la fonction publique.
Les agriculteurs de certaines zones où il y avait de l'insécurité ont pu cultiver cette année. L'école a débuté dans plusieurs localités où les classes étaient fermées. Sur le plan sanitaire, des progrès sont effectifs.
Et sur le plan administratif, il faut reconnaître que l'administration malienne est vraiment une amélioration. La lourdeur administrative, il faut reconnaître qu'il y a eu un changement assez nouveau, il n'y a plus de lanterne.
Cependant, le sociologue Brahima Eliduko estime que l'État peut mieux faire au moment où les attentes des Maliens sont très fortes vis-à-vis de la lutte contre la sécurité, la corruption, mais aussi pour l'avènement d'une école de qualité.
Il y a, en termes de signaux, la création de l'agence de gestion des biens saisis de l'État. Donc, c'est une avancée majeure parce qu'avant, ces biens-là étaient saisis, on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait en faire. Ou comment c'était utilisé, ni qui les utilisait. Donc au moins avec la création de l'agence, demain ou après-demain, une étude pourra se faire pour savoir combien de biens ont été saisis et quel usage on en a fait. L'autre avancée sur le plan de la justice, par exemple, c'est qu'il y a des dossiers qui sont quand même instruits.
À rappeler que pour l'instauration du Mali nouveau, le président de la transition avait avoué avoir besoin de magistrats dévoués, déterminés, engagés et prêts à prendre des risques pour sauvegarder l'intérêt de la nation.